Bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Je suis aujourd'hui en compagnie de Raphaël Gonneau. Comment ça va, Raphaël ?
Tout va bien, je suis encore vivant. Donc, absent depuis quelques mois sur Star Wars en direct, mais toujours à l'écoute et toujours fidèle.
Et moi, vous m'aurez reconnu, je suis Sébastien Galano. Et aujourd'hui, on va pas forcément parler d'un sujet des plus joyeux, parce qu'on va parler du décès de Dev Prose, alias Dark Vador, et de Jeremy Bullock, alias Boba Fett. On n'avait pas fait d'émission sur eux au moment de leur décès, et moi je trouve que c'était important quand même de leur rendre hommage le temps d'une émission, parce que on a fait une émission sur Carrie Fisher, sur Kenny Baker et sur Peter Mayhew, donc il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas sur Dev Prose et sur Jeremy Bullock, notamment vis-à-vis de leur activité dans la communauté et dans le fandom, et de leur sympathie, notamment pour Jeremy Bullock surtout, parce que lui il était vraiment un des fans favorites. Voilà, moi je pense que c'est important de parler de ce qu'ils ont fait pour la communauté, de revenir un peu sur leur parcours. Mais en attendant, on va vite faire un petit WhatsApp. Raphaël, toi, quoi de neuf concernant Star Wars ?
Alors, comme j'étais absent assez longtemps, ce qui ne m'a pas empêché d'aller commander un peu partout à travers l'Europe et le monde, j'ai découvert que les douanes avaient durci leur contrôle. Donc je me suis retrouvé avec des prodeurs à 40 euros avec 150 euros de douane à chaque fois. Donc là, je suis un peu plus recalibrer tous ces achats-là. J'ai acheté pas mal de R2-D2, ça pourra surprendre certains d'entre vous. Mais j'ai quand même ralenti un peu les achats, parce que la production a été particulière aussi. Avec tous les films qui arrivent et toutes ces choses-là, je trouve qu'il y a un petit déséquilibre entre les annonces de jouets et puis ce qui est disponible. Et puis entre nous, t'en as pas pendant un mois, et après t'as une avalanche de figurines qui t'arrivent d'une série quelconque. Donc c'est vrai, c'est un peu compliqué à suivre, mais toujours aussi agréablement surpris de voir la quantité, le volume d'objets. Donc moi, ça s'est limité à l'achat de droïdes pour cette saison.
Et ben moi, me concernant, j'ai acquis mon 13e autographe d'Harrison Ford. En fait, il avait fait un private signing au mois de janvier. Et j'ai commandé une photo signée à la fois par Harrison Ford et par Billy Dee Williams. Donc c'est une photo en noir et blanc sur le tournage de l'Empire Contre-Attaque. Et tu parlais des douanes, mais j'avais très peur des douanes aussi, parce que je crois que c'est 20%. Donc ça m'aurait fait 200 euros de douane à l'arrivée. Et je ne sais pas par quelle chance, je suis passé par les mailles du filet. Donc voilà, j'ai échappé à la douane, j'en ai eu pour 0 euros et je suis très très content. Bon, on va reparler plus sérieusement, on va passer en hyperespace et on va parler de Dev Prose et Jeremy Bullock.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark!
Alright, stand by!
Bon, et ben Raphaël, comme tu le sais, on n'arrête pas de se le dire entre nous lors des conventions, surtout quand on rencontre des acteurs de la trilogie originale, ils sont pas éternels. Et le mois de décembre a été assez dur pour la communauté, parce qu'on a perdu deux icônes à la fois de Star Wars mais de la pop culture en général, avec les décès simultanés de Dev Prose et trois semaines plus tard de Jeremy Bullock. On savait qu'ils n'étaient pas en très bonne santé. C'est triste à dire, mais moi je savais que dans les prochains décès ce serait un des deux, ou si ce n'est les deux, voilà. Ça s'est hélas confirmé. Donc on va revenir premièrement sur Dev Prose, et après on va revenir sur Jeremy Bullock. Donc déjà, toi, on va revenir dans le détail après, hein, mais déjà juste comme ça, est-ce que tu as déjà rencontré Dev Prose, toi?
Oui, j'ai rencontré plusieurs fois. Oui, puis en plus je l'ai rencontré dans des événements assez agréables, quoi. C'est des conventions qui étaient relativement à l'échelle humaine, des petites conventions en fait. Dev Prose était invité, mais je pense que les gens dans le public ne savaient pas qui c'était.
D'accord.
Donc c'était l'avantage qu'on a eu sur ces événements-là, qui avaient lieu à Mâcon, qui était une très belle convention qui a lieu à Mâcon, qui est relancée depuis une année. Je l'avais rencontré aussi à Metz, au Kinéopolis à l'époque, où en fait la difficulté sur Dev Prose, c'est que j'avais beaucoup d'a priori, parce que beaucoup de personnes me disaient des choses assez désagréables sur sa façon d'être et de se comporter vis-à-vis des fans.
Ça, on va y revenir juste après. Mais
Ouais.
on va parler de nos témoignages de leur rencontre. Mais
Ouais.
avant, on va faire un petit récap de leur parcours.
Ouais.
Donc pour DevPros, alors déjà DevPros nous a quittés le 28 novembre 2020. Voilà. Donc DevPros est décédé le 28 novembre de l'année dernière, en 2020. Et il a commencé sa carrière en tant que videur de boîte de nuit. Et après, il est devenu maître nageur et enfin haltérophile, où il a gagné plusieurs championnats que je ne vais pas vous citer parce qu'il y en a quand même une bonne liste. Ses premiers rôles au cinéma, c'était dans Orange Mécanique. En fait, il joue. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est un chef-d'œuvre, mais qui est très très difficile à regarder parce que c'est très très violent. Mais il joue en fait l'aide médicale d'un vieux monsieur qui a été victime de brigands, on va dire ça gentiment. Voilà. Ensuite, il a continué sa carrière en jouant le monstre de Frankenstein pour deux films. Et en dehors de quelques caméos au cinéma, il est connu aussi pour avoir été le coach sportif de Christopher Reeves sur les films Superman. Voilà. Donc si Christopher Reeves a pu gagner, je crois, ses 14 kilos de muscles en 2 mois, ben, c'est grâce à DevPros. Et le rôle le plus important de DevPros en dehors de Dark Vador, c'est celui du Green Cross Codeman.
Oui.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Green Cross Crossman, c'est pas un cousin de Iron Man.
Non.
En fait, c'est le super-héros de la sécurité routière pour les enfants en Angleterre. Alors en fait, voilà, il y avait une campagne de sensibilisation de la sécurité routière qui a été lancée en Angleterre pour apprendre notamment aux enfants à traverser la route en toute sécurité. Et ils avaient décidé pour humaniser un peu ça dans la campagne de représenter ça par un super héros donc joué par DevPros. Donc imaginez-vous DevPros avec des collants blancs et une cape verte avec une grosse croix verte sur le torse. Et vous avez un peu le Green Cross Codeman. Et il a joué
oui.
dans plein de spots publicitaires de prévention. Et il a visité pas moins de 700 villes en Angleterre pour sensibiliser les plus jeunes. Et il a admis que c'était le rôle, le meilleur job de sa vie, en fait, ce rôle-là. Et pour ça, d'ailleurs, en l'année 2000, il a été décoré de l'ordre de l'Empire britannique pour ce rôle. Voilà.
Ouais. Sacré bonhomme.
Sacré bonhomme, voilà. Je vous invite à taper sur Google Green Cross Codeman, vous allez voir, c'est assez kitsch, mais bon, c'était vraiment
ouais,
pour la bonne cause.
Il est impressionnant quand même, parce que c'est un sacré gaillard avec cette tenue-là. Quand tu voyais à côté des voitures, il faisait super, super humain, quoi, surhumain par rapport
à
François Chalouet.
Ouais. Et lors de son audition pour Star Wars, en fait, George Lucas lui a proposé soit le rôle de Chewbacca, soit le rôle de Dark Vador. Il a choisi le rôle de Dark Vador parce que selon lui, en fait, on se souvient toujours du méchant dans un film. Voilà, plus que du sidekick d'un des héros.
Et quel méchant.
Et c'était le méchant, voilà. Oui, bah, c'est le méchant le plus connu de l'histoire
le
du cinéma.
Le méchant,
hein.
Oui.
Donc,
ouais.
Voilà, tout simplement. Et puis, bah, ça n'a pas été tout rose, le tournage de Star Wars pour DevPros. Parce que déjà... A priori, il a un peu exagéré ses talents de combattant à l'épée, ce qui fait qu'on n'a pas eu un super duel entre Dark Vador et Obi-Wan Kenobi dans Un Nouvel Espoir. Et il a été, lui, de son côté, très très déçu du choix de George Lucas de remplacer sa voix par celle de James Earl Jones. Il l'avait un peu mauvaise parce que, comme il le disait dans certaines interviews, ben moi j'étais sur le plateau, j'apprenais mon texte comme n'importe quel comédien, je le récitais avec la tonalité et le ton comme n'importe quel comédien, et a priori, lors du tournage, il n'était pas au courant que sa voix serait remplacée. Voilà. Alors que ça semblait évident pour George Lucas. Donc il y a des petits problèmes de communication. La situation va continuer à se tendre un peu avec l'Empire Contre-Attaque, parce que ben, DevPros parle beaucoup à la presse a priori et de temps en temps il a priori voilà, il lâche quelques spoilers de manière volontaire ou pas, je ne sais pas George Lucas voulait vraiment préserver le secret du je suis ton père et donc du coup lui Lors du tournage de la scène, il n'a pas eu à lire cette phrase, il a lu c'est Obi-Wan qui a tué ton père. Et voilà, donc il a été un peu vexé qu'on l'ait pas mis un peu dans le secret, parce qu'encore une fois, dans une interview, il disait non, mais si je l'avais su, je l'aurais joué un peu différemment. Et au-delà de ça, il a aussi été remplacé sur toutes les scènes de combat qui ont été données à Bob Anderson, qui est un cascadeur professionnel. Les échanges qui demandaient le plus de chorégraphie durant le duel, c'est pas lui derrière, quoi.
Voilà. Ouais.
Clairement pas. Et la situation, voilà, va encore empirer sous le retour du Jedi. Là, a priori, c'est vraiment le minimum syndical de la cordialité entre George Lucas et Dave Prose, et les producteurs et toute l'équipe, quoi. Et c'est toujours Bob Anderson qui fait les scènes de duel contre Luke dans le film. Et surtout là, non seulement voilà, c'est toujours pas lui qui fait la voix de Dark Vador, mais lorsque Dark Vador enlèvera son casque, ça ne sera pas son visage, mais celui de Sebastian Shaw. Alors là, je peux vous dire que Dave Prose, il l'a mauvaise de chez mauvaise. Et à partir de ce moment-là, je crois que la situation avec George Lucas restera tendue jusqu'à sa mort, en fait. C'est ça qui est triste.
Ce qui est surprenant, c'est que pour une grande partie des fans qui sont pas très accros, entre guillemets, à connaître tout l'historique de ça, pour eux, Dark Vador reste Dark Vador, quoi, tu vois. Pour eux, c'est Dave Prose. Alors que les ultras, ceux qui sont en convention, c'est pas Dark Vador, quoi. Voilà, il y a Hurley, il y a tous ces gens-là qui ont fait les voix, qui ont fait les cascades et tout. Donc c'est vrai qu'un seul personnage peut être fait par 4 ou 5 autres personnages dans les films, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué son existence aussi.
Voilà, mais Dave Prose, je veux dire, quand vous regardez les films, la majorité du temps, c'est Dave Prose sous le costume. Voilà. Mais après, tu dis, voilà, Boba Fett, on en parlera tout à l'heure, mais c'est pareil. Et plus récemment, dans The Mandalorian, le Mandalorian, vous avez Pedro Pascal qui fait la voix, vous avez Brendan Wayne qui fait peut-être 80% des scènes sous le costume, donc un peu comme Dave Prose, et vous avez Latif Crawler qui fait toutes les cascades. Donc vous avez 3 personnes pour faire un même personnage, quoi.
Ouais, puis je pense aussi que c'est dans la culture maintenant. On prend le meilleur de chacun et on associe.
C'est ça.
Alors qu'avant, on ne pouvait pas faire toutes ces choses-là. Maintenant, les nouveaux supports, le média le permettent. Donc on peut, à partir d'un personnage, prendre le meilleur de l'un dans la cascade, prendre le meilleur de l'autre dans la prestance et dans la mouvance, prendre le meilleur de l'autre dans la voix ou dans la chorégraphie. Et c'est vrai que c'est une habitude qu'on n'avait pas avant. Ouais. Avant, le méchant était toujours méchant. Il savait faire du revolver, il savait tirer, faire toutes ces choses-là. Là, c'était aussi une révolution dans l'univers Star Wars qu'avait amené George Lucas aussi.
Voilà, il faut pas avoir trop d'ego, parce que Dave Prose, a priori, avait quand même son ego. Et quand je vois, par exemple, Brendan Wayne, qui joue 80% du temps le Mandalorien sous le costume, et ben, il prend sur lui, parce que tout le marketing est fait autour de Pedro Pascal et pas autour de lui. Pourtant, Brendan Wayne, il a joué beaucoup plus le Mandalorien que Pedro Pascal.
Ah mais tu vois, ça revient à ce que je te dis, je pense que c'est culturel. Ouais. C'est que les gens, ils savent maintenant que c'est comme ça que ça se passe et qu'on a l'habitude. C'est comme les doublures corps pour les filles dont certains voient comme elle est jolie, alors qu'en fait, c'est une doublure corps qui remplace ses jambes, c'est pas ses vraies jambes ou toutes ces choses-là. Ouais. Donc à l'époque, je pense que c'était un peu gênant parce que c'était tout nouveau, mais je pense qu'au fil du temps, on va s'habituer et de plus en plus, on va arriver à ce genre de, on va dire, de pléthore d'acteurs pour un même personnage. Pour faire, alors je pense pas qu'ils vont faire un acteur pour le bras, un acteur pour la jambe, un acteur tout ça.
Oui.
Parce qu'on va pas s'en sortir. Voilà.
En tout cas, Dave Prose, les tensions entre Dave Prose et George Lucas se sont tellement tendues qu'il a fini par être banni des conventions officielles Star Wars en 2008, je crois, 2009. En tout cas, je sais que la dernière convention officielle qu'il a pu faire, c'était, il me semble, Star Wars Célébration Europe à Londres, donc la toute première. Hein.
Je sais même plus s'il était à Londres.
Ah, il y était à Londres parce que j'avais pris un autographe de lui.
D'accord. Voilà. Ouais. Donc, je me souviens de Mark Hamill, mais j'ai oublié Jerry Bullock.
Jerry Bullock et Dave Prose étaient là. Mais en tout cas, c'était le dernier événement, si je dis pas de bêtises, officiel auquel il a participé. Et lui-même comprenait pas trop parce qu'il disait, en fait, je suis Dark Vador, je suis un peu le méchant principal de toute l'histoire et je suis banni des événements officiels. Donc ok, d'accord, voilà. Ce que je peux comprendre, mais voilà. Après, je suis pas là pour dire qui avait raison, de George Lucas ou de Dave Prose. Moi, je pense que il y a eu beaucoup de quiproquos entre les deux et que les torts sont totalement partagés. Voilà. Je vais pas en défendre un plus que l'autre.
En plus, on n'a pas tous les éléments qui permettraient de dire voilà. Ou tel avait raison. Ouais. Nous, ce qu'on voit, c'est que bon, ça s'est fait. Il n'y a pas eu trop de dégâts sur le film en
Oui,
film en
voilà,
lui-même.
on le
Donc
ressent
ça
pas
allait,
dans
ouais.
les films. Voilà.
On ne sent pas dans le film, quoi.
Voilà. Après, il y a aussi un documentaire sur Dave Prost dont le nom m'a échappé qui est arrivé. En fait, c'est un réalisateur espagnol qui veut revenir sur cette histoire de pourquoi Dave Prost a été limogé de Lucasfilm. Il lui fait même retourner la fameuse scène où il retire le casque. Après, c'est un documentaire très intéressant, mais qu'il faut prendre avec du recul parce que il y a un vrai parti pris du côté de Dave Prost. Voilà, il n'est pas du tout objectif. Donc, il met totalement sous silence tous les torts qu'aurait pu avoir Dave Prost. Voilà. Mais ça reste intéressant à regarder. J'ai plus le nom du documentaire, je suis désolé.
Je cherche en même temps et j'arrive pas à le retrouver non plus. Donc,
voilà.
Compte pour moi.
Il était sur Netflix il y a un temps, France. Il est plus sur Netflix, il est plus sur Netflix France. Peut-être qu'il est encore Netflix québécois. Voilà, faut taper Dave Prost et puis faut regarder les résultats.
Comme diraient les Québécois, ça perd les popettes.
Ouais, voilà.
Ils disent pas ça, les Québécois.
Si, les Québécois, je sais pas s'ils disent ça, ils perdent les popettes. Je suis pas québécois. Tout ça pour dire que Dave Prost a été aussi un des premiers acteurs à tourner en convention. Et notamment, je crois, les toutes premières conventions, il y avait une tournée en fait qui s'appelait The Men Behind the Mask, donc dire les hommes derrière les masques, où il y avait notamment, il me semble, Peter Mayhew, Chewbacca, Jeremy Bullock, Boba Fett, il devait y avoir aussi Anthony Daniels et Kenny Baker. Voilà, tous ceux dont vous ne voyez pas le visage dans les films.
Ouais, en fait, c'est tous les acteurs anglais, en fait, on va dire.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Et Dave Prost, on peut dire que des conventions, il en a fait pas mal. Toi, tu l'as rencontré en convention, tu nous as dit.
Oui, moi, je l'ai rencontré en convention. Donc, comme je disais, moi, j'avais quand même beaucoup de choses un peu négatives parce que tout le monde me disait, tu verras, c'est une personne qui est pas agréable, il est induit de sa personne. Il sourit jamais, toutes ces choses-là. Donc, moi, je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était à Kineopolis à Reims, si je ne me trompe pas. Et j'ai été surpris, en fait. Parce qu'en fait, c'est absolument pas ce qu'on m'avait dit, quoi. Il était super agréable, super gentil, discutait bien. On voyait que sa grandeur le gênait un peu parce qu'il a encore du mal à se déplacer, mais super agréable, vraiment accueillant, quoi. Et je lui ai dit, est-ce que je prends une photo avec vous? Alors que tout le monde me disait, c'est impossible d'avoir une photo avec lui. J'ai dû faire une dizaine de photos avec lui dans différentes positions où il m'étrangle, toutes ces choses-là. Où jouait l'acteur, et ça m'avait un peu décomplexé de ce que j'avais pu entendre au préalable, où on me disait, tu vas voir, c'est quelqu'un ici, il n'y a rien à secouer avec toi. Non, c'est pas un Peter Mayhew, c'est vraiment quelqu'un qui m'a surpris, en fait, par rapport à tout ce qu'on m'avait dit au préalable. Donc, c'est vrai que certains ont peut-être vécu des mauvais moments. Moi, je l'ai rencontré après à d'autres endroits, à Mâcon. Donc, à Mâcon, là aussi, la personne très agréable, très bien accueillie, encore par Laurent, qui l'avait accueilli vraiment très bien avec son association. Le personnage est intéressant, on avait pu boire avec lui, manger avec lui, vraiment quelqu'un, franchement, à l'opposé de ce qu'on a tous pu entendre, me dit peut-être que la vieillesse a fait qu'il s'est peut-être rééquilibré, pardon, pas rééquilibré, mais qu'il s'est assagi, mais c'était intéressant de le voir, parce qu'en fait, ce qui m'a vraiment surpris, c'est se rendre compte que c'est des humains comme nous, quoi. Et j'avais tendance à oublier, moi, à idolâtrer les acteurs comme étant des gens... intouchables, vénérés et tout ça, pour me rendre compte que c'est des gens comme nous, avec les mêmes difficultés que nous, avec des problèmes et tout, personnels, les problèmes pour se déplacer par rapport à sa grande taille ou pour dormir, toutes ces anecdotes qu'il racontait en convention pour trouver des lits à sa taille, c'était assez folklorique. Mais c'est là où je me suis rendu compte que derrière tous ces personnages, déjà il y avait des humains, voilà, c'était une chose. Alors des humains qui peuvent être très agréables comme d'autres désagréables, je ne reviendrai pas sur les désagréables. Là, plutôt c'est agréable pendant ces deux émissions, celle de Dave Prose et celle de Jeremy Bullock. Mais vraiment, ce qui m'a vraiment, vraiment touché, c'est que il a toujours été là, quoi. Je veux dire, à Mâcon, il est venu plusieurs fois à Mâcon, dans un petit village à Mâcon, ouais, parce qu'ils sont à peine 40 000 habitants. En France, il est venu au moins 3-4-5 fois. Et il était vraiment, vraiment super agréable, super gentil et tout. Vraiment attachant, voilà. Je peux dire, ce qui peut surprendre certaines personnes. Nous, on avait un avantage quand même, je pense, européens et français, c'est qu'aux États-Unis, il allait rarement aux États-Unis. Nous, la chance de l'avoir. Moi, j'ai eu la chance de le voir énormément de fois en France, à Londres aussi, lors des conventions. J'ai vraiment cette chance-là d'avoir pu voir Dark Vador à peu près une bonne dizaine de fois. Et à 10 fois, j'allais grand plaisir lui faire signer des photos où on était tous les deux. Et c'était assez comique. Et je regardais sur une photo de Jeremy Bullock après, vous voulez le voir. Mais c'était quelqu'un qui était, malgré tout, malgré ses difficultés, parce que là, je venais aussi qu'il avait plus en plus de difficultés pour se déplacer, mais qui était une personne super gentille et agréable, quoi. Franchement, à l'opposé de ce qu'il a peut-être eu été les années avant. Voilà.
Merci pour ce beau témoignage, Raphaël.
Merci, merci. Vous pouvez m'applaudir.
Bravo.
Merci, bravo.
Moi, je l'ai rencontré, j'ai pas compté, mais je l'ai rencontré 4-5 fois, Dave Proz. Et une fois sur deux, il était très agréable, mais vraiment hyper gentil. Et une fois sur deux, c'était, on va dire, pas le plus agréable des personnages, mais bon, ça restait quand même plus agréable qu'une rencontre avec Peter Mayhew, qui a toujours été exécrable quand je l'ai rencontré. Mais oui, toute première fois, c'était au Collector Rendez-vous à Paris. C'était une des premières conventions de l'époque, dans les années 2000. Et je lui ai fait signer une figurine de Dark Vador. Et voilà, j'avais rencontré Jeremy Bullock juste avant, en fait, pour la première fois aussi. Et puis Dave Proz, c'était un peu plus « Bonjour, je prends ton argent, je te signe, merci, au revoir, suivant quoi. » Ah, tu veux faire une photo, ok, d'accord. Alors moi, j'ai jamais eu de problème pour faire des photos avec lui. À chaque fois, il disait oui. Je me suis dit, ok, bon, c'est pas le plus sympa, mais voilà, c'était pas non plus un mauvais souvenir, hein, loin de là. Hein. Et il y a d'autres conventions plus tard à Paris, super gentil, on a discuté, j'ai même pu lui faire une petite interview en vidéo, on a refait une super photo ensemble, très très agréable, très content d'être là, voilà. Donc c'était quelqu'un qui avait ses humeurs, qui était assez lunatique, qui pouvait apporter du très bon comme du passable, entre guillemets, en termes d'expérience fan, quoi. Voilà. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était à QC. Et je m'étais dit, vas-y, profites-en, tant qu'il est là, fais-toi signer au moins 3 photos, et c'est ce que j'ai fait. Et je ne regrette pas maintenant. Parce que voilà, comme on disait, c'est les acteurs de la trilogie originale commencent tous à bien vieillir. Ils sont vraiment plus tout jeunes, donc voilà. Quand on a la chance de les voir, on peut en profiter. Pour regarder des petits souvenirs d'eux, je trouve. Et par contre, à QC, je crois que j'avais déjà eu une photo de lui. J'ai 2 photos avec lui. Je m'étais dit, non, mais ne reprends pas de photo, t'as déjà une photo avec lui. Voilà. J'ai même pas demandé. Et puis aujourd'hui, je regrette un peu de ne pas avoir demandé.
Pour revenir sur QC, je pense que c'était un fantasme de tout le monde que le voir à QC par rapport aux organisateurs, puisque Macron a eu la chance de le voir plusieurs fois. Et quand Dark Vador est arrivé à QC, il y a de ça, je croyais pas si longtemps que ça dans les années. Moi, je dis dans les années, t'as vu, en même temps que je dis ça, ça fait 30 ans que je cours les conventions. Mais c'était bien de le voir à QC aussi, parce que c'était une convention où il n'y avait pas l'habitude de faire. C'était vraiment une belle convention sur QC. Et on sentait tous que c'était la dernière. Tu vois, c'est triste de dire ça, mais vu le peuple qu'il y avait en plus pour les signatures, c'était agréable. Et on avait trop peur que ce soit la fin, tu vois, de ces éléments-là, ce qui paraissait déjà relativement fatigué.
Parce que justement, il a bien tourné en convention, Dave Proz, et quelques années après QC, justement, il a décidé, il a fait un communiqué comme quoi, il avait assez donné pour les fans et qu'il a arrêté tout simplement les conventions, parce qu'il n'était plus en état de les faire. Il continuait à vendre parfois des autographes sur son site internet, mais ça aussi, il a très rapidement arrêté de le faire. Et je le comprends parce que il a dû vivre facilement. Pendant 30 ans, il a fait des conventions tous les week-ends, quoi. Donc, à un moment, quand t'es malade, que t'es plus en état, tu arrêtes, tu prends ta retraite. Hein. Et depuis son décès, d'ailleurs, il y a le prix de ses autographes qui a forcément grimpé. Alors pas tant que ça. Pour vous donner un ordre d'idée, à QC encore, donc c'était 2012-2013. Ses autographes étaient à 20€. Maintenant qu'il est décédé, ça se trouve entre 50 et 100. Voilà.
Donc, ouais. Sachant qu'à QC, on fait attention que les autographes soient accessibles aussi.
Voilà. Mais même dans d'autres conventions, ouais. il était ouais. À 30€ maximum.
Était pas cher.
Quoi. Voilà.
Ouais. À Macron, il était pas cher non plus.
Voilà. En convention, j'ai jamais vu au-dessus de 30€. Mais voilà, maintenant qu'il est décédé, forcément les prix augmentent. Mais c'est loin d'être un autographe rare parce que je sais pas, il doit y avoir des centaines de milliers d'autographes de Dave Proz qui circulent tellement il a fait
moi, j'ai une dédicace de Dave Proz sur une de ses photos où il marque les noms de mes 3 enfants, Mathias, Silas et Gaspard. Je ne suis pas votre père. Ouais. Parce qu'il est toujours de blague. Il écrit tout le temps « Je suis votre père pour tout le monde ».
En fait, il écrit toujours Dark, ouais. « Dev Prose is Dark Vador ».
Voilà ça.
Ça montre que voilà, c'est lui, quoi. C'est lui. Ouais. C'est pas James Earl Jones, c'est pas Bob Anderson, c'est moi. Voilà. Et en dehors du retour du Jedi, d'ailleurs, petite anecdote qui me revient, c'est que il a pas été réinvité sur La Revanche des Sith pour jouer Dark Vador. Il avait même eu des mots un peu durs contre Hayden Christensen qui avait pris le rôle en mode ben, il est bien mignon, mais bon, il fait pas ma taille ni ma carrure. Par contre, dans les années 90, il avait repris le rôle de Dark Vador pour un jeu en VHS. Donc pour les plus jeunes, la VHS, c'est une cassette vidéo qu'on mettait dans un magnétoscope et il y avait des jeux interactif avec des cassettes vidéo, voilà. Et pour le coup, il y avait un jeu Star Wars comme ça et Dark Vador apparaissait et il était joué par Dev Prose.
Ouais. Tu crois que tu sais ce que c'est qu'une VHS, les gens, en même temps que je dis ça?
Enfin, je sais pas maintenant. Enfin, moi, ça me semble évident, mais maintenant, je pense qu'il faut qu'on explique un peu quand même pour les plus jeunes d'entre nous.
Voilà. Bon, parce qu'on enregistrait les programmes télé sur des cassettes avant. Mmh. Voilà. Bon, on va faire une partie sur autre chose, voilà. Autre fois. On dit mal, on va faire.
Ouais. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur Dev Prose.
Ouais.
Je sais pas si t'as d'autres choses à dire à ce sujet.
Si, j'aurais juste rajouté que c'est comme tout, je pense que certains ont passé des mauvais moments avec Dev Prose sur peut-être des conventions qui étaient plus liées à une histoire d'organisation, une histoire de personne. Moi, pour avoir eu la chance de le rencontrer souvent sur Macon avec Laurent, l'organisateur, et puis mon copain Christophe du magasin Toy Zone, c'était une personne qui était vraiment super gentille, on chouchoutait, il avait plaisir à discuter, plaisir à venir. Il venait régulièrement, en fait, hein, donc tu vois, tous les ans, il venait. Vraiment pour dire qu'il avait évolué avec les choses, avec le temps, pardon. C'est vrai que je pense que entre nous, dans le film, personne ne lui a fait de cadeau, que ce soit George Lucas ou vice-versa, l'un ou l'autre, avec l'autre. Il y avait, comme tu dis, des grands égos démesurés les uns les autres. Mais je pense qu'on peut pas d'égo démesuré sans jouer ces rôles-là, quoi. Dire que un mec comme George Lucas est obligé d'avoir son caractère pour pouvoir mener son film là où l'a mené, et comme Dave Prose a besoin d'avoir un caractère, un charisme tel que celui-ci pour jouer le rôle d'Dark Vador aussi. Donc pour moi, ça me surprend pas non plus. Voilà.
Et ben pour moi aussi, tu vois, ben Dark Vador, ben ça restera pour moi Dave Prose parce que et James Earl Jones aussi, quoi, mais Dev Prose, c'est quand même, allez, quand vous regardez Star Wars à l'écran, bah, la plupart du temps c'est quand même lui qui est sous le costume, donc voilà, faut aussi rendre à César ce qui est à César. Et c'est, j'aurais envie de lui dire, s'il était encore là, bah, c'est pas parce qu'on n'entend pas votre voix et que vous faites pas toutes les scènes que les gens ne savent pas qui vous êtes, quoi. Je veux dire, dans la communauté, je pense que tout le monde sait qui est Dev Prose, quoi, donc voilà, je pense qu'on l'oubliera pas de sitôt.
Voilà, comme on pourrait conclure, Dark Vador, c'est Dev Prose. Voilà.
Entre autres. Voilà. Et bien maintenant, on va passer à un autre vilain casqué, c'est Boba Fett. Voilà. Moi, personnellement, alors Jeremy Bullock, lui, est décédé le 17 décembre. Et je savais déjà qu'il allait pas bien. J'avais lu voilà, plein de choses sur internet, de gens qui le côtoyaient, qui m'ont côtoyé jusqu'à la fin, et qui disaient tous vraiment que la forme n'était plus là. Et en fait, il avait la maladie de... Il est mort de Parkinson, Jeremy Bullock. Et surtout, c'était un coup, parce que quand je l'ai appris, parce que on venait de perdre déjà Dev 3 semaines plus tôt, et là, c'était vraiment coup sur coup, quoi, parce que... Voilà, aussi. Moi, je m'attendais à ce que Jeremy Bullock soit sur la fin, mais qu'il parte pas aussitôt, quoi. Enfin, voilà.
Ouais. C'était un peu... ouais, parce que Jeremy Bullock a toujours eu une meilleure santé que Dev Prose. On va comparer deux instants pour revenir plus sur Jeremy Bullock. Comparer l'un avec l'autre, c'est vrai que Jeremy Bullock était quelqu'un de plus dynamique, plus agréable. Et comme tu dis, il faut pas dissocier Jeremy Bullock et de son épouse, qui était tout le temps avec lui en convention. C'est une personne qui était adorable, qui parlait très bien français en plus. On discutait souvent ensemble, parce que chez son péché mignon, donc je ramenais toujours des chocolats de chez eux, parce qu'on a eu la chance d'avoir des gros chocolatiers dans notre région, par rapport à leur renommée et leur nom. Donc j'ai ramené toujours du chocolat et on discutait souvent. Et surtout, il y avait nos amis anglais de je sais plus quel site, voilà, j'ai perdu leur feed, mince alors, et qui s'occupaient de le transporter aussi pour les conventions Célébration Europe, où ils étaient déjà Parkinson à l'époque par des quêtes et tout, où il allait encore pas trop mal, mais c'est vrai que moi je l'ai rencontré, la dernière fois que je l'ai rencontré, c'est une convention en. Je crois que c'est à Bruxelles, au Comic-Con de Bruxelles, où il était sur une petite table. Il était vraiment dans un état vraiment catastrophique, physiquement. Et il n'avait pas rendu en plus la chose agréable à la Comic-Con. Il avait mis une petite pièce dans un mur avec une pauvre table en bois, quoi. Il n'avait pas rendu honneur à son travail. Et c'est vrai que là, on commençait à se rendre compte qu'il était déjà relativement fatigué. Ouais.
Alors avant de continuer, parce que comme pour Dev Pros, on va faire un petit récap de la carrière de Jeremy Bullock et après on va revenir sur plus en détail sur nos expériences avec lui.
Je m'excuse.
Non mais t'inquiète pas, Raphaël, t'as pas de problème.
C'est le cœur, allez je laisse, ouais. Je ferme le micro.
Non. Alors mais ça va être très rapide, hein. Alors voilà, pour resituer Jeremy Bullock, lui il a commencé sa carrière dans les années 60 dans des comédies musicales, voilà. Et il a continué à la télévision dans des soap-opéras sur la BBC. Et il s'est fait repérer. Et pour la petite anecdote, c'était aussi le demi-frère de Robert Watts, qui était le producteur exécutif sur L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi, et producteur sur la trilogie Indiana Jones. Donc ça aide un peu d'avoir dans sa famille quelqu'un qui est déjà bien placé chez Lucasfilm. Et quand il a eu le rôle, voilà, George Lucas lui a dit bah voilà, c'est un petit rôle, mais voilà, j'espère que tu vas quand même t'amuser à le faire. Je crois que même que George Lucas s'était excusé de lui donner un si petit rôle, voilà. Et je pense qu'il savait pas encore toute l'aura qu'il y aurait autour de Boba Fett. Et après, voilà, Jeremy Bullock va reprendre le rôle pour Le Retour du Jedi, et après continuera sa carrière en faisant quelques apparitions dans des séries télé. Et fait amusant, c'est un gros collectionneur des produits dérivés sur Boba Fett. Il avait une pièce chez lui où il y avait vraiment que des produits dérivés Boba Fett, des peintures, des figurines, des statuettes, des photos, enfin tout. Tout ce qui existe sur Boba Fett, il avait vraiment une vraie grosse collection sur son personnage, qui est rigolo. Et contrairement à Dev Pros, qui avait quand même son ego, Jeremy Bullock, c'est quelqu'un de très humble et qui a toujours dit « En fait, les gens ne sont pas fans de moi, les gens qui viennent me voir sont fans de Boba Fett. Et si j'avais pas cette armure, jamais je serais là en convention à signer des autographes. » C'est vraiment le design, le look de Boba Fett qui fait que les gens sont là en convention, mais voilà. Le personnage a plus de crédit que moi de l'avoir joué, quoi. Voilà. Donc je trouve que c'était quelque chose de très humble de sa part de dire ça. Voilà. Et comme Dev Prose, ben, il a tourné dans énormément de conventions, Jeremy Bullock. Il a fait la fameuse tournée aussi, voilà, The Man Behind the Mask. Et moi je me souviens qu'en France, un jour, il y avait la librairie Arkham, qui n'existe plus, qui avait organisé à Paris une séance de dédicace avec Dev Pros et avec Jeremy Bullock. Donc moi, je devais avoir 16 ans à l'époque et je m'étais dit oh, « Je vais louper ça, mais c'est l'opportunité d'une vie, mais plus jamais Boba Fett et Dark Vador feront une convention ensemble et tout. » Enfin, c'était très frustrant de ne pas pouvoir y aller. Et je ne me doutais pas encore qu'à l'époque, en fait, qu'il faisait des conventions tous les week-ends et qu'à cette époque-là, dans les années 2000, il venait au moins une fois par an en France, hein, faire des autographes. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Et la première fois que j'ai rencontré Jeremy Bullock, c'était aussi un collector rendez-vous à Paris. Donc pour remettre dans le contexte, c'était une des premières conventions qui existait tout court, hein, sur Paris pour la pop culture. Et il était adorable, il était super gentil. Et en fait, vous aviez beau être le 136e fan qui voyait dans la journée, et bien il faisait en sorte que vous sentiez que vous étiez unique, que vous étiez quelqu'un d'important, et il tenait à prendre le temps avec tout le monde, à discuter, à faire une photo. Il demandait bien où est-ce qu'on voulait se faire signer, l'autographe, sur les photos, sur les figurines, bref. C'était quelqu'un d'une douceur mais extrême, et j'ai toujours eu d'excellents souvenirs avec lui. Tout le temps. Je me souviens aussi, une petite décennie plus tard, j'avais été dans les Star Wars Célébrations. Même si Jeremy Bullock était un habitué des conventions, mais vraiment, il passait sa vie entière à faire des conventions, c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Et donc c'était peut-être même l'acteur le moins rare en convention, il a dû signer encore plus d'autographes que Dave Prose. Et pourtant, au Star Wars Célébration, il y avait toujours une file d'attente énorme à sa table pour avoir un autographe de lui. À la fois parce que voilà, le personnage de Boba Fett est ultra populaire,
mais l'acteur l'était devenu tout autant parce qu'il y avait vraiment, il a vraiment une réputation de personne adorable. Et j'ai jamais vu un acteur dont on a fait les louanges de manière unanime sur Internet, quoi. Il n'y a que Jeremy Bullock, 100% des avis sont positifs, j'ai envie de dire.
100%, ouais. Si on pouvait mettre 200, on mettrait 200. Hein. Mmh. Moi, je l'ai rencontré, alors attends, je calcule avec la petite tête, il y a à peu près 25 ans. Je l'ai vu sur Paris aussi, lors de différentes conventions. Je l'ai vu aussi pour la première fois, je crois que c'était la première fois qu'on faisait dédicace à QC. C'était lui qui était venu. Une personne très agréable, mais vraiment accessible. Tout ce que tu viens de dire, quoi. Je ne vais pas faire répéter une seconde fois ce que tu as prononcé, mais c'est vrai que c'est une personne vraiment accessible, une très belle signature. Sa signature était vraiment superbe. Calligraphiquement, elle rendait bien, elle était propre. Comme Anthony Daniel, je prends des gens qui font des très belles signatures, qui est assez lisible. Or, qu'une Jerry Block à 10 mètres, quoi, comme signature, est toujours un mot gentil, il parlait français, toujours pas un mot de travers, il s'est vraiment photographié, il acceptait tous les cadeaux, il discutait avec toi. Il pouvait discuter 5 minutes avec toi, mais il savait que la personne qui était derrière allait aussi passer 5 minutes avec toi, donc on n'était jamais déçus. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que, entre nous, un personnage, pas secondaire, je veux dire, mais un personnage atypique et puis avoir une telle communauté, quoi. C'en est vraiment surprenant, je veux dire. Je regarde les collectionneurs de Boba Fett, avec surtout les jouets sont relativement rares sur certains modèles de figurines, mais tout ce qu'il a pu être derrière, quoi. Si tu veux, on a vraiment associé le personnage derrière et en fait le personnage de chasseur de primes avec un visage aussi pétillant et aussi agréable, ça a surpris un peu tout le monde, quoi. Alors que Dark Vador, comme assez impressionnant, Dave Prose est comme physiquement assez impressionnant. Dave Prose, c'est quelqu'un académique dans le sens de sa formation, quelqu'un de très gentil, de très posé, et c'était vraiment un plaisir de le voir. Et il essaie toujours de se rappeler de toi, mais même s'il ne se rappelait pas de toi, le sourire et le petit mot faisaient que tu étais vraiment sous le charme. Voilà. Vraiment une forte personne agréable.
Ouais. Non, mais lui, c'est un des plus beaux souvenirs de rencontre d'acteurs que j'ai eu en convention. Et adorant Boba Fett à chaque fois qu'il passait en France, je n'hésitais pas à faire signer une photo différente à chaque fois. Heureusement que je faisais signer des photos différentes, sinon ce serait un peu bizarre. Et qu'est-ce que je voulais dire
Ça s'appelle le trou dormant, non? Quand on a un trou de mémoire.
Et
place à mot magique, ça peut être retrouver ta mémoire.
Oui, oui. ce que je voulais dire, c'est que, comme tu le disais, ces dernières années, on sentait qu'il y avait vraiment qu'il était fatigué. Moi, c'est quand je l'avais vu à QC, où il y avait une vraie différence par rapport à la dernière fois où je l'avais vu. Je l'avais vu en 2013 à Célébration Europe ASN, et je me souviens que j'étais le premier de la journée à aller le voir à sa table pour faire un autographe, donc j'étais très content. Et il était encore en forme, et ce qui était bien, c'est que lui, il signait les autographes debout. C'est qu'il n'aimait pas rester derrière une table et garder cette distance un peu avec les fans. Lui, ben, il était debout devant sa table, il te serrait la main, il se mettait à ta place, en fait, il se mettait à ton niveau, t'étais son égal, et les interactions n'en étaient que meilleures, en fait, contrairement à un acteur qui attend patiemment derrière sa table, des fois ça peut avoir l'air un peu déprimant. Et quand je l'ai revu quelques années plus tard à QC, ben, j'ai l'impression qu'il avait pris 10 ans dans la gueule, quoi. Il était de retour derrière sa table, mais parce que tu sentais que physiquement c'était peut-être compliqué de rester debout toute la journée, et il commençait à perdre un peu la mémoire. C'est triste, hein, mais voilà, je sais qu'il y avait des gens et ben ils se trompaient dans leur nom, donc du coup il fallait qu'il re-signe avec le bon nom, et même dans sa calligraphie de quand il signait, tu sentais que ça tremblait un peu plus, voilà. Donc on le sentait un peu affaibli. Donc du coup là, j'ai pas fait la même erreur qu'avec Dave Prose, c'est que là je vais reprendre une photo avec lui quand même au cas où, parce que c'est la dernière fois. Il s'avère que c'était la dernière fois d'ailleurs, c'est ça qui est triste. Mais après voilà, je crois qu'il a continué les conventions pendant encore un an, et après il a pris la décision comme Dave Prose, ben d'arrêter de faire des conventions parce que son état ne le permettait plus. Il avait par contre toujours son site où on pouvait se procurer plein de photos autographiées par lui. Et moi je m'en étais pris une sur son site, sur une photo que j'avais pas encore il y a un an environ. Et j'ai bien fait parce que le site a dû fermer un mois plus tard. Et parce qu'il était même plus en état de signer des autographes, quoi, même de chez lui. Et voilà, donc un peu moins d'un an plus tard, il est décédé de Parkinson. Voilà, lui, c'est vraiment, ça m'a fait un coup. Plus que pour Dave Prowse, plus que pour Peter Mayhew. Parce que Peter Mayhew, de toute façon, c'était pas quelqu'un que j'aimais, mais voilà, plus que. Limite autant que Carrie Fisher, quoi, tu vois.
Ah, tu vois, c'est les personnes comme avec Richard Le Parmentier, avec des personnes qui ont été très accessibles avec les fans, qui, au-delà de l'aspect mercantique des choses, pouvaient tirer un trait et faire autre chose après, discuter avec toi, boire un coup tranquillement. Et surtout, ce qui m'a vraiment fait plaisir dans ces choses-là, c'est le respect des fans vis-à-vis de ces personnes-là. Par exemple, quand tu vois, moi je me souviens qu'on allait à. C'était Convention Europe le 2e à Essen, en Allemagne. Dans l'hôtel où on était, ils étaient tous là, quoi. Et tu voyais qu'ils étaient tranquilles, buvaient tranquillement, et aucun fan qui les agressait. Et c'était vraiment. Comme on savait qu'ils étaient accessibles lors des conventions, on n'allait jamais les embêter après. Voilà. Alors que quand tu avais un Mark Hamill qui traînait, tu avais 600, 800 personnes qui couraient derrière, quoi. Donc je comprends pourquoi ils se faisaient rares aussi. Et Dave Prowse avait cette facilité à être accessible. Dans tous les sens du terme.
Des pros ou Jeremy Bullock ?
Jeremy Bullock, pardon. Oui. Tu vois, j'ai commencé à perdre les mots. C'est l'âge aussi.
Faut que tu arrêtes les conventions, Raphaël. Que...
Ouais, ouais. Voilà, j'ai arrêté depuis 2 ans. Comme tout le monde.
Oui, malheureusement. Oui, malheureusement. Ça, c'est encore un autre sujet, ça. Encore un autre sujet.
Tu me fais pleurer.
Non, mais bah, tu vois, tiens, je vais embrayer là-dessus, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que le jour où les conventions seront de retour et qu'elles inviteront potentiellement des acteurs de la trilogie originale. Allez-y, hein, parce que
ouais, c'est ça.
Vous savez pas quand est-ce que vous allez les revoir ou si vous allez les revoir.
Tu sais, je vais dire une chose, moi, je les ai vus 20 fois, et certains. 20 fois, j'ai fait la queue pour un autographe. Pourquoi ? Ben déjà, c'est pour le respect de la convention, parce que la convention t'a fait venir un gars. Voilà. Et puis les 20 euros que tu donnes ou les 30 euros que tu donnes, c'est aussi bien pour la convention que pour la personne qui l'a fait venir, que pour l'acteur. Voilà. Et si tu ne donnes pas ça, les gens arrêteront de signer. Après, tout le monde dit oui, c'est toujours trop cher. C'est toujours trop cher quand on paye, jamais assez cher quand on vend. Mais surtout, c'est quelque chose qui vous est propre, quoi. Même s'il a signé 1000 fois la même photo, oui, mais c'est votre photo à vous, vous la faites devant vous. Voilà. Et j'insiste vraiment où il n'y a pas de petit acteur, quoi. Tout le monde a besoin de manger. Et quand je vois tous les acteurs qu'il y a dans la trilogie à faire signer, ben, profitez-en, parce que malheureusement, n'oubliez pas que quand on a vu les films, moi j'avais 7 ans, eux ils avaient déjà 25. Ou 30, donc ça va vite, vite malheureusement partir. Voilà. J'espère que Mark Hamill restera encore bien là pour deux cons.
Bah, regarde au final, qui c'est qui reste dans la trilogie d'âge d'important.
C'est vrai.
Il reste Mark Hamill.
Hamill.
Il reste Anthony Daniels.
Ouais.
Voilà, il reste Harrison Ford.
Ouais.
Alors moi j'espère pas me dire à quand Harrison Ford, hein, parce que qu'il puisse rester le plus longtemps possible. Hein.
Ouais.
Sinon on va tous être en union de prière en mode. Non.
Billy Williams
qui a 83 ans cette année. Hein.
Ouais.
Je dis ça, je dis rien.
Oh, ouais.
Et quand je l'ai vu à Chicago en 2019, il était pas non plus au top de sa forme. Je dis ça, je dis rien non plus. Après on a qui ? On a du côté des méchants, on a Ian McDiarmid.
Ouais.
Et dans les personnages plus secondaires, on a encore par exemple Julian Glover, Kenneth Collet qui joue Piet.
Ouais. Après tous les acteurs qu'on a sur. Je fais un peu de pub sur Mythic Box en ce moment, alors on fait signer.
Oui, alors ce sera fini quand on aura diffusé l'émission, mais c'est l'émission, vrai qu'il y a
souvent des signatures. Ouais.
Ouais, donc là, oui, donc, du côté des personnages secondaires, Mythic Box a fait signer déjà l'acteur de Big Fortuna, j'ai plus son nom. En ce moment, c'est Dermot Crowley qui joue Crix Madine. Il y a Tim Rose qui joue l'amiral Akbar. Voilà. Donc, bon, dans les personnages secondaires, il y a encore, je pense qu'il y a une vingtaine d'acteurs qui tournent encore au niveau des personnages secondaires. Même si, le plus populaire d'entre eux, Boba Fett, n'est plus des nôtres. Et dans les personnages principaux, on les compte sur les doigts d'une main. Tu vois, Mark Hamill, Harrison Ford, Ian McDiarmid, Anthony Daniels.
Oui.
Et c'est tout. Après, c'est vraiment que des rôles secondaires.
Oui. qu'est-ce qui a fait que ces acteurs comme Boba Fett soient devenus iconiques? Je veux dire, on m'a toujours surpris.
Bah, c'est l'armure, c'est le style du personnage, tout le mystère qui l'entourait. Voilà. Il faut dire que Boba Fett, il est super cool au niveau de l'armure. Ouais. Et ça suffit avant de déjouer. Et moi, j'étais le premier petit à vouloir sa figurine en priorité parce qu'il était trop cool. Quoi, voilà. Et c'est con, hein, mais comme le disait Jeremy Bullock, hein, je pense qu'on était plus fan du personnage que de l'acteur. Mais après, quand tu connais l'acteur qui est derrière, tu apprécies autant les deux. Quoi.
Ouais. Ouais, je me souviens, quand j'étais petit, pour moi, derrière, il n'y a pas des acteurs. Quoi. Tu vois, j'avais pas cette imaginaire. C'est que je voyais les personnages, j'avais 7 ans, tu vas me dire. Et quand je disais au cinéma, pour moi, c'était vraiment des méchants. C'était soit des marionnettes ou des choses comme ça. On ne pouvait pas mettre un humain derrière, tu vois. Et ça m'a fait rire plus tard, quand j'ai vu qu'il y avait des gens réels et tout. Ça m'a fait... Lors de la deuxième, je dis, ah ouais, quand même, j'y vieillis bien.
Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour aussi sur Jeremy Bullock. Toi, tu as autre chose à rajouter à son sujet?
Non, 40 personnes.
Voilà. Et ben, en tout cas, si quelqu'un aussi a quelque chose à rajouter à son sujet, c'est notre ami Fabien qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais qui voulait quand même laisser son témoignage envers Dave et Jeremy, parce que il a pu les côtoyer à QC, vu que il fait partie de l'organisation des Héritiers de la Force. Donc tout de suite, je laisse la parole à Fabien.
Bonjour à tous, ici Fabien pour Star Wars en direct. Tout d'abord, merci à Seb et Raphaël de nous donner la parole pour l'émission concernant la disparition donc de Dave Proz et Jeremy Bullock. Je vais commencer par Dave Proz. Je l'avais rencontré une fois il y a très longtemps lors d'un événement parisien. Donc j'ai pas grand chose à dire. L'année où il était venu à QC, malheureusement, j'étais pas là. Donc la seule chose que je dirais, c'est que quoi qu'il arrive, il incarnait Dark Vador, et puis pour le grand public, c'était quand même toujours important, et on a eu des retours médiatiques l'année où il était, où nous l'avions accueilli à Génération Star Wars et Science Fiction, où on voyait que c'était quand même toujours quelqu'un d'important, parce qu'il incarnait toujours le personnage, le vilain le plus célèbre du cinéma. Donc forcément, ça avait une certaine aura, et on m'a dit quand même du plus grand bien sur la personne qui était Dave Proz. Là où je voulais un peu plus m'étendre, c'était par rapport à Jeremy Bullock, par contre, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Jeremy Bullock, ça a été le premier acteur qui est venu à QC en 2003 pour Génération Star Wars et Science Fiction, et c'est la première année que j'ai pu aller à une convention. En fait, je suis allé à la convention, j'ai découvert la convention de QC cette année-là en 2003, parce que il y avait justement un acteur qui venait pour la première fois. Ça m'a donné envie d'aller voir ça, et je suis tombé dans le chaudron des conventions, on va dire, je me suis inscrit tout de suite après auprès de l'association. J'ai voulu m'engager auprès de l'association, donc quelque part il a une place un peu importante aussi dans ma vie de fan. Puis j'avais eu l'immense privilège après de l'avoir invité moi-même, en fait. Enfin, c'était moi qui m'étais occupé de le réinviter à QC quelques années plus tard, en 2014 si je dis pas de bêtises. Et c'était une très belle rencontre, que ça soit avec lui ou sa femme Maureen. C'est des gens qui sont absolument adorables, qui sont très bienveillants avec tout le monde, qui étaient super gentils avec les fans, qui étaient prêts à discuter un petit peu, à faire des photos de façon sans aucun problème avec les plus jeunes, etc. Et c'était quelqu'un de très bienveillant. Je l'avais revu en 2016, je crois 2016 ou 2017, à la Comic-Con à Montréal. J'avais trouvé qu'il avait pris un petit coup de vieux, en fait. Il parlait beaucoup moins, il avait du mal à entendre. Ça m'avait fait beaucoup de peine à l'époque, et je trouve que c'est tout à son honneur qu'il avait, peu de temps après, annoncé qu'il arrêtait les conventions, avant qu'il soit dans un état trop fatigué ou trop pénible pour les conventions. Quoi qu'il arrive, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup. C'est probablement un des guests la disparition d'un des guests qui m'a donné le plus de peine, avec probablement Carrie Fisher pour ce qu'elle représente. Donc voilà, je voulais dire un mot pour lui. C'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup en tant qu'homme et en tant que personnage au sein de la communauté et au sein du monde des conventions de Star Wars et d'autres. J'ai une pensée pour Maureen, sa femme, et pour lui. Voilà. Merci à vous.
Voilà. Eh bien, écoutez, Raphaël, je suis ravi d'avoir pu faire cette émission
ouais, ça fait
avec
du bien.
Toi. Je pense que c'était important voilà, de parler du décès de ces deux légendes de la saga Star Wars. Je pense qu'hélas, ce ne sera pas la dernière émission qu'on va faire comme ça, mais j'espère que la prochaine, ce sera
le
plus tard possible, effectivement, et surtout pas sur Harrison Ford.
Non, surtout pas.
Surtout pas. qui a 78 ans et qui se porte très bien de toute façon. Voilà. Écoute, on va remercier rapidement nos partenaires, à savoir Cyclan.net, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, MetInbox.net, le Space Trash Show, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science Fiction, et Star Wars Holonet. Raphaël. On se retrouve bientôt pour une émission collector, parce que ça fait longtemps qu'on en a pas fait.
Ouais, ça fait un petit moment, et je m'en excuse encore. J'expliquerai tout ça lors du collector, le petit problème
aussi,
que j'ai eu. Et puis il racontera tout ça. Puisqu'on a tous les deux. On a tous les deux un Gaspard, c'est ça ?
On a tous les deux un Gaspard à la maison. Voilà.
Un Gaspard à la maison.
Voilà, on a tous les deux un petit Gaspard. Et les petits Gaspards, il faut les gérer avant de gérer les podcasts. Hein.
C'est moi j'ai un grand géré aussi, prioritaire.
Voilà.
Bon, on embrasse nos femmes.
On embrasse Zoé, voilà, on embrasse nos femmes, on embrasse nos Gaspards. On vous embrasse tous.
Avec grand plaisir.
Voilà, que la force soit avec vous.
Avec vous.
Ciao.
Ciao.